BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison des Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent d'Ukraine, de Portugal, d'Italie et de Belgique. Des regards extérieurs toujours aussi précieux pour nous faire sortir de notre bulle franco-française, et on en aura tellement besoin en cette année de campagne présidentielle bousculée par ces chocs géopolitiques qui s'intensifient. Le monde est devenu bipolaire, dominé par la Chine et les États-Unis, et dans lequel la France, elle, ne pèse plus que 3% du PIB mondial. Alors oui, aujourd'hui nous allons parler du top départ des débats présidentiels, reprise à Roland-Garros, et on parlera d'Ukraine bien sûr, avec cette menace russe qui s'intensifie. On dira aussi un mot de l'Islande, avec un vote très important pour l'Europe ce week-end. Vous allez voir, là c'est un sujet géostratégique majeur au cœur de l'Arctique. Les Experts sans frontières, c'est parti. Ils sont autour de moi, nos Experts sans frontières, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui risque d'être très agitée, notamment sur le plan géopolitique. Anna Navarro, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et bienvenue Anna, je vous cherchais, correspondante de la presse portugaise en France. Alberto Toscano, politologue et journaliste italien, bienvenue Alberto.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver pour cette saison. Violeta Moscalou, franco-ukrainienne, présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine, qui est aussi une des amies des Experts sans frontières. Bienvenue, Violeta. Et Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Bienvenue, Adeline.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour. Bonjour à tous. Donc, la présidentielle, c'est le top départ. 7 candidats déclarés qui se sont retrouvés cette semaine à Roland-Garros. D'ailleurs, c'est peut-être pas neutre. Le premier débat officiel était un débat économique. Et qui s'est articulé notamment autour des propositions de Mélenchon et de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Est-ce que ce match Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon, c'est un match inéluctable vu de Belgique, comment on en parle, Adeline Percept?
Non, alors oui, évidemment, vu de Belgique, on en parle avec les sondages actuels, mais en regardant ce débat, moi, il m'est apparu que ce match n'était absolument pas inéluctable. Et en réalité, j'ai trouvé que ce débat était vraiment une respiration par rapport à ce qu'on connaît depuis des années maintenant. Je veux dire, en 2022, on a été quasiment privé de débats à la fois économiques, mais sur tous les autres sujets, parce qu'il y avait l'Ukraine et que Emmanuel Macron a décidé de ne pas faire campagne et de la surnager finalement cette campagne. Et même en 2017, quand vous y pensez sur la précédente présidentielle, les débats
On était encore marqué par les vagues d'attentats terroristes,
oui,
et c'était le terrorisme qui prédominait.
Exactement.
Sur les sujets habituels nationaux. Quoi.
Et les affaires de François Fillon qui ont finalement fait qu'une grande partie, et que lui, il apportait quand même des ruptures économiques, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et ces éléments-là, si vous voulez, ont été très vite zappés de la campagne.
Les partis traditionnels ont été pulvérisés.
Exactement.
Les terroristes
là,
ont
été... Moi, c'est vraiment le retour de clivage très clair. On a vu des candidats qui chacun pouvaient dérouler sur ces aspects économiques, mais qui vont, on le sait, tout conditionner finalement de la politique dans les 5 prochaines années. Et on a vu le retour du clivage droite-gauche, et puis différentes droites et différentes gauches. Et pour moi, c'était vraiment une respiration démocratique aussi.
Une respiration démocratique. Violeta Moscalou, aussi, vous, comment est-ce que vous regardez ce top départ des débats présidentiels? J'allais dire que, vu d'Ukraine, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Est-ce que c'est un sujet important dans le sens où c'est la deuxième puissance de la zone euro qui va élire son président, alors qu'on entame la 5e année de guerre en Ukraine?
Oui, tout à fait. Le fait que Marine Le Pen reste la candidate la plus solidement en fait installée pour une qualification au second tour, ça inquiète énormément en Ukraine en fait, parce que on n'ose même pas imaginer ce que serait la politique étrangère française/européenne européenne avec l'arrivée de l'extrême droite en fait un pouvoir en France. Donc ça, c'est une inquiétude extraordinaire pour l'Ukraine et je pense que c'est une carte que les Russes vont essayer de jouer énormément avec en faisant tout ce qu'ils savent faire en fait, à des informations, ingérences et tout ce qui va avec pour soutenir ce scénario en fait, hein, parce que c'est celui qui les arrange le plus. Après, c'est sûr que on se dit depuis l'Ukraine que visiblement on s'est pas dit que la finale sera extrême droite extrême gauche et que peut-être que les divisions actuelles qu'on observe sur le centre droite et puis sur la gauche en fait peut-être que il y aura un sursaut un peu d'intelligence collective à un moment donné pour éviter trop de fragmentation et peut-être des alliances pour le premier tour parce que l'idée c'est ça en fait ça sera quoi la finale parce que donc une grosse inquiétude et effectivement de par le rôle que de l'importance du leadership français dans tout ce qui s'est joué dans la co-construction de soutien occidental en fait la coalition de volontaires le leadership du président Emmanuel Macron en fait hein, donc de la France qui a donné des impulsions il y a de quoi être très très angoissé en fait.
Et on va revenir sur ces ingérences et chocs géopolitiques qui peuvent venir percuter cette campagne présidentielle. On va finir ce tour de table. Alberto Toscano, vu d'Italie, comment est-ce que vous avez vu ce top départ des débats présidentiels en France ? Est-ce que quelque part Marine Le Pen, qui caracole en tête des sondages, peut, surfer sur un élan Meloni ou pas ? Ou est-ce que quelque part aussi les partis extrémistes et populistes, finalement, commence à être un peu plus compliqué pour eux ? On a vu la défaite d'Orban après 17 ans de pouvoir.
Oui, la nouveauté évidente du moment est la centralité de l'économie. Là, on l'a vu hier très bien, mais on le voit tous les jours dans les débats politiques. La dette, les conséquences de la dette, paradoxalement, Emmanuel Macron, d'ailleurs le grand absent du débat actuel, hein, parce que personne ne se revendique du macronisme. Hein. Les 10 ans d'héritage d'Emmanuel Macron passent un peu...
D'ailleurs, Gabriel Attal et Édouard Philippe marchaient sur des œufs. Hein,
ils essayaient éviter le bilan. Oui,
oui, mais c'est là où on voit que c'est des bêtes politiques. Hein. Ils arrivaient à passer entre les...
C'est vrai.
Dont la centralité de l'économie suite à la crise de la dette et à ses conséquences. Crise de la dette qui est aussi crise du déficit, évidemment, et crise des finances publiques, et impossibilité de réformer. Emmanuel Macron s'était présenté comme l'homme des réformes. La France n'a pas vu de véritables réformes. On a vu deux réformes de retraite qui ont paralysé le pays pendant des années et qui ne se sont jamais matérialisées. Jamais les réformes sont entrées en vigueur. Donc, aujourd'hui, on voit cette situation. Peut-être qu'on n'a pas vu complètement le même débat d'hier, dans le sens que moi, je n'ai pas vu un véritable clivage droite-gauche. Bien sûr, il existe. Mais le clivage qui me frappe est le clivage extrême-centre. Et il y a deux extrêmes d'un côté et de l'autre qui ont des choses en commun, notamment, entre autres, dans la politique étrangère, par rapport à la question ukrainienne.
Sur le champ économique, il y a quand même un vrai débat de fond sur qu'est-ce qu'on fait de notre dette, comment on la gère. Et si on tire ce fil-là, c'est aussi comment on fait évoluer notre modèle de protection sociale, parce que tout est lié. Donc là, on revient au vrai sujet structurel qui façonnait une campagne présidentielle pendant des décennies.
Ce sujet structurel voit d'un côté les partis qui font peut-être un peu plus de démagogie et qui sont aux deux extrêmes. Et de l'autre côté, au centre, deux candidats qui me semblent les plus plausibles aujourd'hui et qui sont Glucksmann et Édouard Philippe, qui ont des traits communs. Et les traits communs est d'essayer de pratiquer sur le centre-droite ou le centre-gauche une politique substantiellement libérale et pragmatique. Dont le clivage que je vois aujourd'hui est bien sûr droite-gauche qui caractérise toujours la politique française et tout ça, mais aussi un clivage entre démagogie et pragmatisme. Et du côté de la démagogie, on peut voir ensemble les deux extrêmes et du côté du pragmatisme, ensemble, avec des nuances, bien sûr, avec des différences, mais ensemble, deux candidats pragmatiques, Glucksmann et Édouard Philippe.
Ana Navarro, vu du Portugal qui a connu la Troïka, l'austérité, comment est-ce que vous voyez justement ce débat économique qui donne le top départ de la campagne présidentielle? Comment est-ce que, vu du Portugal, on voit ces Français, ce village gaulois qui s'écharpe autour des efforts, du niveau d'effort qu'il faut consentir et que les Portugais ont déjà fait.
Que les Portugais ont déjà consenti, qui continuent à consentir, parce que... que dire? Avant la grande crise de 2011, le Portugal a demandé des dettes souveraines, le Portugal a demandé une aide, il y avait eu déjà 5 plans d'austérité au Portugal qui s'étaient suivis. Et qui n'avait pas donné d'effet escompté, parce que les politiques d'austérité, quand même, il faut les appliquer, peut-être comme le Portugal a fait à partir de 2015, dans un mix social, à la fois social et de rigueur budgétaire.
C'est vrai que le Portugal, en fait, était un modèle de compromis entre partis politiques dans ses votes budgétaires.
On ne voit personne regarder ce qu'on... Un prix Nobel d'économie a appelé le miracle portugais, bah, tant pis pour les Français, pour les candidats français. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la dette va être centrale dans ce débat, sans pour autant l'expliquer aux Français pourquoi elle est absolument centrale. On ne va pas expliquer ce que ça veut dire en termes de chômage, ce que ça va vouloir dire en termes de baisse des subventions d'État, des aides de l'État, peut-être même d'augmentation d'impôts. Et on ne voit pas proposer un mix qui permettrait chiffrer, qui permettrait effectivement, mais c'est très tôt dans la campagne et la situation va se détériorer d'ici les élections, hélas. Je pense, vu du Portugal qui a vraiment subi de plein fouet une crise immense, je pense que la France se dit toujours, nous sommes un grand pays, nous pouvons supporter cette situation et les candidats se le disent et donc on peut... projeter des programmes à minimum dans la situation qui est très grave, dans la situation de la France qui est très grave en ce moment.
Et alors justement, Alberto, en Italie, on sait qu'il y a une dette qui est plus élevée encore dans le ratio PIB que la France, mais en même temps une dynamique économique, peut-être au niveau de la dynamique qui est plus forte que chez nous. Comment est traité le sujet de la dette en Italie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un tel psychodrame comparé à la France?
Les Italiens ont peur
de leur dette?
De leur dette et d'être isolés en Europe. Un peuple qui a peur est prêt à faire des sacrifices. Les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Irlandais et bien d'autres ont fait des sacrifices. Et les Français pensent que, étant Français, n'ont pas besoin de faire des sacrifices. Et le jour où viendra où la réalité va rattraper la France. Parce que l'Italie, aujourd'hui, a un surplus primaire, un surplus de son budget. S'il n'y avait pas les intérêts de la dette, le budget italien serait actif. Le budget français est déficitaire, et qui plus est, encore plus déficitaire, à cause des intérêts sur la dette.
Donc, nos intérêts plus chers que l'Italie, aujourd'hui.
Oui, il y a cet article du Financial Times qui dit qu'aujourd'hui, la situation de la dette publique italienne est considérée plus solide que celle de la dette publique française, même si la dette publique italienne est à 136% du PIB, la dette publique française est à 118% du PIB.
Et dans nos projections budgétaires, la charge de la dette va devenir le premier poste de l'État, de dépenses de l'État. Vous voulez réagir, Violetta?
Très rapidement, je pense qu'effectivement, il y a une grosse inquiétude et des divergences de position sur les questions non liées à la dette, mais j'attends toujours un vrai débat aussi sur l'axe, le partage de la valeur, en fait, parce que si on veut améliorer le pouvoir d'achat, parce qu'il y a une vraie problématique, en fait, le partage de la valeur, quand les entreprises, les grandes entreprises et les PME font des bons résultats et versent des dividendes aux actionnaires, ça serait très intéressant aussi de booster et mettre un peu plus en avant les mécanismes autour de l'actionnariat salarié pour que le facteur de capital bénéficie aussi au facteur travail, en fait. Et ça, pour l'instant, je reste encore sur ma faim parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de solutions sur cet axe-là et qui sont encore très
sous-exploitées. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes docteur à l'Université de Lorraine et que ce sujet du partage de la valeur était un sujet de thèse que vous avez soutenu.
Donc
c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. C'est d'autant plus intéressant, je vous fais peut-être rebondir aussi là-dessus, Ana Navarro, que le sentiment d'injustice liée liée au partage de la valeur est peut-être une des racines de la montée des populismes en Europe.
C'est une des racines. Beaucoup d'études depuis des années le démontrent. Je me souviens notamment d'avoir lu des études des universitaires danois là-dessus, qu'ils avaient fait pour l'Europe et pour les États-Unis. C'est l'évidence même. Quand vous êtes un peu, vous avez un sentiment d'injustice sur le la richesse que vous produisez pour le pays et comme elle est répartie ensuite, évidemment, vous êtes tenté.
La concentration de richesse est quelque chose de dévastateur.
Mais remarquez, hier, dans le débat, s'est passé quelque chose. À un moment donné, Jean-Luc Mélenchon a dit il faut augmenter les salaires. C'est à peu près ce que vous dites, mais par des mots beaucoup plus cash. Et à ce moment-là, la salle du MEDEF a éclaté. Il y a un grand éclat de rire. Et il a dit mais vous ne rigolerez pas très longtemps. Et là, silence. Donc oui, on sent qu'il y a des tendances qui vont se jouer dans cette campagne.
Mais il y a une vraie différence quand même, parce qu'effectivement ça fait peur. Moi aussi je suis chef d'entreprise et qu'on me dise augmenter les salaires quand on voit toutes les charges, enfin les taxes après derrière, ça inquiète énormément. Moi je dis au contraire, quand l'entreprise a déjà fait des bénéfices en fait, hein, on a payé les impôts et qu'après on distribue des dividendes, ça ne me choque absolument pas qu'une partie de ces dividendes aille vers le facteur de la production de ces richesses en fait, à travers donc, le facteur de travail et pas seulement en direction des dirigeants. Et là, on sortirait de l'extrême des discussions qui font peur aussi au monde économique, de dire taxer plus, taxer les riches et on nourrit un peu une espèce de haine sociale. Moi, je dis non, il y a des solutions qui iraient vers l'apaisement social. C'est-à-dire quand l'entreprise a fait des bénéfices, a payé les impôts et distribué des dividendes, bah, les salariés doivent aussi avoir leur part de gâteau.
Alors, j'aimerais rester dans le registre de la campagne présidentielle, mais changer un petit peu de champ. Je vais vous faire écouter ce que disait à un colloque organisé par la revue géopolitique Le Grand Continent en janvier dernier. François Hollande, qui y était invité, s'exprimait sur, pour lui, le sujet qui allait émerger pendant la campagne présidentielle. Écoutez François Hollande.
Pour la première fois depuis le début de la Ve République, y compris avec le général de Gaulle, les questions internationales vont être majeures dans le scrutin présidentiel.
Alors, Adeline Percept, on sait qu'une campagne présidentielle, ça se joue au final au moment de glisser son bulletin de vote. Ça se joue quand même sur la fiscalité, mon travail, mon sentiment d'injustice par rapport au partage de la valeur, pouvoir d'achat, mais sécurité. Justement. Là, est-ce que quand François Hollande dit ça, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas François Hollande, c'est aussi un analyste politique qu'on peut écouter. Quand il dit ça, est-ce qu'il y a une part d'opportunisme parce que si c'est la prime à l'expérience et qu'il a fait 5 ans à l'Élysée, voilà. Hein, ou est-ce que quelque part, on est dans un monde qui se brutalise tellement que oui, les questions internationales joueront beaucoup plus que d'habitude.
Mais évidemment, mais c'était déjà le cas en 2022. La campagne de Macron était totalement sur la crise en Ukraine, souvenez-vous. Et je pense que maintenant, les crises internationales
L'invasion russe
tellement...
en Ukraine était 6 ou 7 semaines avant
Exactement,
avant la présidentielle.
Et il s'est présenté comme le seul finalement capable de sortir l'Europe, hein, si je caricature un peu, de cette ornière. Bon, là, le problème, c'est que les crises internationales se sont intensifiées, elles sont beaucoup plus brusques, elles arrivent de façon beaucoup plus rapide, sans forcément qu'on les ait vues venir, et en plus, deuxième point, elles ont un impact direct, quasiment instantané sur nos vies. On l'a vu avec le détroit d'Ormuz et le prix à la pompe au final.
C'est-à-dire que les électeurs font le lien entre le blocage d'Ormuz et leur pouvoir d'achat.
Évidemment. Ouais, et donc du coup, évidemment que n'importe quelle grande crise internationale qui surviendrait quelques temps avant l'élection pourrait rebattre les cartes. Évidemment, il y a la crise en Ukraine qui nous plonge aussi dans les thèmes de l'ingérence dont on va probablement parler, dans les... Et qui font que tout ça est très mouvant jusqu'à la fin, jusqu'au scrutin en réalité.
Oui, c'est ça, parce que le... Oui, Violetta, vous voulez
réagir. Je voulais attirer l'attention sur le fait que ça, c'est quelque chose, une carte que Poutine ne va pas se priver de jouer, notamment pour essayer d'escalader, de menacer, de faire peur encore plus, en fait, sans vraiment passer peut-être à des actes plus frontaux. Mais donc son objectif, c'est quoi? C'est que les Européens se disent la guerre en Ukraine, c'est pas notre guerre, et restons tranquilles, restons chez nous en fait. Hein. Et donc, et pour Trump aussi, pour ses élections de fin d'année, il aurait besoin de montrer qu'il a une capacité à solder ou à trouver des solutions en fait, hein, donc dans cette guerre russo-ukrainienne. Et quand il y a eu la visite là, il y a récemment donc de chef de FBI en fait, hein, donc
oui. John Ratcliffe à Moscou cette semaine.
C'est pas pour rien que ça arrive en ce moment même en fait, hein. Et donc Poutine en fait il comprend que pour lui, pour faire peur, pour qu'il y ait plus de comment on appelle ça, que les gens
de clivage,
voilà, merci beaucoup. Et du coup, pour que le vote, c'est-à-dire que cette position desserve et les candidats comme Raphaël Glucksmann par exemple, ou comme Gabriel Attal, enfin, centre-gauche, centre-droite, et que ça sert plutôt à dire oui, mais si c'est par exemple Marine Le Pen, elle serait plus prudente, la France ne serait pas embarquée dans un conflit. Dans une escalade en fait, militaire avec la Russie et tout ça. Donc Poutine, il va jouer en fait, et donc il faut s'attendre, et tous les signaux qu'on voit avec la désinformation et tout ça, donc la DGSI qui nous a prévenus, enfin, et tout, il faut s'attendre à ce que...
La patronne de la DGSI était à Roland-Garros devant les chefs d'entreprise et a alerté cette semaine en disant qu'il y avait une multiplication fulgurante des actes d'ingérence étrangère sur notre sol.
Moi, je pense qu'on va assister
et
dans
pas
les
seulement
six
numérique, hein.
à huit mois
pas
à
numérique.
Une dégradation de la situation internationale. Effectivement, les Européens vont être beaucoup plus confrontés à une menace d'escalade d'une façon
d'escalade,
hybride.
Hein. C'est bien qu'on parle beaucoup, d'ailleurs, je voulais faire réagir là-dessus, Alberto, on parle beaucoup de guerre hybride. J'écoutais l'amiral Pierre Vandier, qui est chef de la transformation de l'OTAN, qui lui parle de paix hybride. Il dit qu'il faut s'habituer en Europe à vivre dans une paix hybride. On n'est jamais dans une véritable paix, ni dans une guerre non plus. Voilà, et donc des usines qui... des câbles qui se font sectionner, une usine qui se fait pirater, etc. Ça peut devenir le quotidien, ça.
Véritable paix, on l'a vu rarement en Europe. Parce que même à l'époque de la guerre froide, c'était quand même une guerre froide. Ce n'était pas une véritable paix. Donc, ça sera une nouvelle version d'une paix qui ne dit pas vraiment son nom, d'une paix qui est difficile à vivre, qui n'est pas complètement une paix. Donc, il y aura une guerre hybride, comme vous venez de dire, et d'autres formes de pression qui viendront de plusieurs côtés, pas que du côté russe, certainement du côté russe, tant qu'il y aura Poutine, certainement, mais aussi du côté chinois et pourquoi pas aussi du côté américain. Mais aujourd'hui, par rapport à la campagne électorale, moi je pense, et je le souligne encore une fois, les thèmes au centre de la campagne électorale seront des thèmes de politique économique et de politique intérieure. Et si on considère l'immigration comme un thème de politique intérieure, et les impôts, et le budget, le déficit, la dette. Je crois que... Et les impôts soulignés trois fois. Voilà.
Vous pensez aussi, Anna Navarro, qu'au moment de glisser le bulletin de vote dans l'urne, ce seront les questions, comme dit Alberto, économiques qui primeront comme d'habitude. Ou est-ce que, comme on entendait François Hollande, les questions internationales ne vont quand même pas ressurgir avec cette idée que finalement, on votera peut-être non plus pour une personne ou un parti, mais pour une incarnation, celui ou celle qui est capable demain de discuter avec un Xi Jinping, avec un Donald Trump ou avec un Vladimir Poutine. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la vraie question qui sera différenciante?
Avoir de la stature politique et diplomatique comptera certainement dans la vision, dans l'opinion que les citoyens français se feront de leur candidat. Parce que quelqu'un de mou, quelqu'un de qui n'a pas une fibre, qui n'a pas un certain courage... ne passe pas très bien en France, en règle générale. Il n'en reste pas moins que, pour Adeline a bien fait la synthèse dès le début, la politique internationale, elle va être présente ne serait-ce que par le biais du ticket à la pompe ou au supermarché. Sachant que j'ai des prix augmentés aussi à des manques, comme on nous les annonce du côté des États-Unis, cet hiver, bah, c'est dû à des choix de politique internationale. Les Français savent aussi qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un représenter représenter la France, enfin, à l'international, les décisions sont prises au niveau de Bruxelles. Et donc, c'est pour tout le continent. Donc, peut-être ça, moins quelqu'un qui peut tenir tête, mais quelqu'un qui peut avoir une belle stature, une belle prestance face à des grands dirigeants de ce monde, oui, ça, ça pourra compter. Ce ne sera pas déterminant, mais pourra compter. Mais juste pour en finir avec les ingérences, Alberto a commencé à le dire, il y en aura évidemment de la Russie, mais pas que de la Russie, certainement des États-Unis, ça a commencé, quand ils disent en Allemagne qu'ils appuient l'AFD, par exemple, le Parti populiste d'extrême droite. Enfin,
avec une élection très importante en Saxe, hein, dans quelques semaines.
L'AFD est crédité de 40% dans les intentions de vote.
Mais quand l'Europe elle-même,
qu'on parle d'Alice Weidel un jour.
Quand un dirigeant allemand vient en France appuyer un certain candidat, ou quand un président français va en Allemagne en appuyer un autre, c'est pas de l'ingérence, ça, évidemment. La Roumanie, il y a eu une bataille d'ingérence de tous les côtés, de l'Europe et dans les élections récentes, et de la Russie, évidemment. Donc, on ne peut pas... On n'est pas tout blanc et tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre. L'Europe aussi et les pays européens aussi pratiquent aussi une forme d'ingérence. Et ça, c'est peut-être un thème à étudier à l'avenir quand on sera un peu plus calme, parce que ça suffit quand même.
Oui, on va marquer une courte pause et on continue à parler, bien sûr, de ce top départ de la campagne présidentielle, mais avec le prisme de cette menace russe à l'Est, pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, au moment de ce top départ de la campagne en Ukraine, où en est exactement la menace russe. Et on parlera aussi d'un référendum qui a lieu ce week-end en Islande. Vous allez voir que cette île, cet État islandais, en fait, c'est un enjeu géoéconomique et géostratégique majeur, puisque c'est une île charnière entre l'Arctique et l'Atlantique Nord. A tout de suite dans les Experts sans frontières.
BFM Business présente... Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette nouvelle saison des Experts sans frontières. Autour de moi, Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Alberto Toscano, politologue et essayiste italien, Violetta Moscalou, présidente de Global Ukraine, professeure associée à l'Université de Lorraine, et Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris. Restons sur cette menace russe, cette menace qui s'intensifie à l'Est, et sur ce top départ de la présidentielle en France. Voilà, on disait que les questions internationales n'allaient pas forcément primer lors de cette campagne, mais sans faire l'oiseau de mauvais augure, Alberto, on a quand même des scénarios pris par tous les états-majors de plus en plus sérieux d'attaques russes sur un pays de l'OTAN pour tester la capacité de réaction de l'OTAN. Si on en arrive là en pleine campagne présidentielle, on va monter d'un cran là.
Hein. Avec Poutine, tout peut arriver. On a l'expérience de 22. Je me souviens, pour raconter l'anecdote, j'étais le soir avant débattre avec des experts de politique internationale à une radio italienne, et l'un des principaux experts italiens de politique internationale et de défense a dit « Non, Poutine ne va certainement pas attaquer. » Le jour suivant, Poutine a attaqué. Or, Poutine est imprévisible. Poutine est en danger, la Russie est en danger. Mais la Russie n'est pas le seul danger. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on vit dans un contexte d'instabilité. Le vieux monde bipolaire avait beaucoup de défauts. Il y avait des menaces, mais il y avait un contexte qui plus ou moins garantissait une certaine stabilité. On va vers une situation où l'instabilité est partout, à la fois parce qu'il y a de nouvelles puissances, la Turquie par exemple, Israël et d'autres puissances, les points d'interrogation sur l'Iran, le Pakistan et blablabla, et aussi parce qu'il y a de nouvelles technologies qui permettent d'autres instruments pour influencer la politique d'autrui. Donc, on va dans un monde plus incertain. Je ne sais pas si le monde de demain sera plus ou moins sûr. Certainement, il y aura plus d'incertitude dans les relations internationales.
Et en même temps, Violetta Moscalou, quand on entend, alors c'était il y a quelques mois, quand on voit la polémique qui a été déclenchée par le chef d'état-major français qui dit dans un discours au maire de France qu'il faut être prêt à sacrifier nos enfants, et alors là, bah, je mets de la polémique, elle était aussi médiatique. Personnellement, Est-ce que ça n'engage que moi, mais est-ce que quelque part cette polémique ne traduit pas une forme de cécité de la société française par rapport à l'état réel des menaces extérieures? Car si vous écoutiez à l'époque tout ce que disait le chef d'état-major, il disait juste au maire de France, j'ai besoin de votre relais vers le civil parce que l'état des menaces extérieures est extrêmement forte. Et quand une nation est autant menacée, les deux ciments au bout du bout qui restent, c'est l'armée et les maires.
Effectivement, je pense qu'il faut souligner une évolution quand même de l'opinion publique entre 2022, 2024 et 2026, par exemple, en fait, hein. Et qu'il y a une forme de myopie par rapport à la menace qui est représentée par la Russie sur notre continent quand même, en fait, hein, donc parce que vous disiez tout à l'heure, des informations, c'est un peu dans tous les sens, et que nous aussi, nos pays occidentaux, soi-disant, on fait aussi la même chose. Je crois que c'est pas tout à fait un effet miroir, en fait, hein, parce que on ne va pas, les occidentaux ne vont pas influencer les élections en Russie. Par contre, la Russie ne se gêne pas, en fait, hein, quand ils veulent la Roumanie, la Hongrie, en fait, tout ce qu'on voit, ce qui se passe par ailleurs. Et depuis des années. Donc aujourd'hui, effectivement, le constat est fait par des documents de l'OTAN, de l'Union européenne, par des déclarations de services secrets de différents pays, qu'il y a une guerre hybride forte, en fait, hein, donc qui est faite pour casser la confiance, en fait, hein, et donc amplifier les divisions. À la limite, ils ont même pas besoin, peut-être forcément, de soutenir un candidat spécifique, mais de amplifier la méfiance, en fait, hein, et la division, poussée vers des confrontation, vers une guerre civile, en fait, hein, donc vraiment des scénarios, ça peut aller sur une échelle quand même de 1 à 10, mais c'est pour ça que je pense que les démocraties sont en danger face aux pays autoritaristes et qu'il faut sortir de cet état on n'est pas dans un monde de bisounours et que souvent ces pays autoritaristes, en fait, ils utilisent nos propres instruments, en fait, c'est-à-dire la liberté d'expression, les réseaux sociaux, en fait, toutes ces choses, tous ces outils-là pour saper et désinguer nos institutions, en fait, et nos valeurs fondamentales.
Mais aujourd'hui, la menace russe dans l'ingérence numérique, elle est très connue. Alors, elle existe chaque jour, elle est très connue, elle est très documentée par le service qui s'appelle Viginum, et on s'aperçoit que cet été, sur les ingérences numériques et la désinformation qui ont touché trois candidats, à savoir Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann, c'était toujours les mêmes modes opératoires qu'on a documentés déjà depuis 2024, c'est-à-dire Storm 1516, Matryoshka, des modes opératoires qui sont connus et qui sont surveillés en permanence. Donc ça veut dire que
Matryoshka qui a été largement utilisé, je crois, en Moldavie, hein, pour les élections moldaves.
Oui, ouais. Et puis qui a été utilisé ailleurs, en Roumanie, ouais, etc. Mais ces modes opératoires, ils sont connus maintenant des services français. L'État a pris la mesure de ça. En revanche, d'autres ingérences numériques existent, chinoises, Azerbaïdjan par exemple, sont moins documentées, moins connues et moins connu aussi du public. Mais en effet, il faut que le public se rende compte que c'est permanent sur les réseaux notamment.
Alors, en tout cas, la menace russe, elle ne concerne pas... là, on parle aussi de la France, des ingérences, parce qu'on est en campagne présidentielle. Mais peut-être un des pays les plus visés aujourd'hui par les menaces russes, au-delà de l'Ukraine, bien sûr, c'est la Grande-Bretagne, hein, qui est un des premiers soutiens de l'Ukraine. J'aimerais vous faire écouter, c'était au début de la semaine, le nouveau Premier ministre, Andy Burnham, qui rappelle aux côtés de Zelensky son soutien indéfectible de la Grande-Bretagne à l'Ukraine. Écoutez-le.
Malgré les menaces scandaleuses proférées par la Russie à l'encontre de mon pays, nous continuerons à soutenir la défense de l'Ukraine. Je sais que vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour protéger votre espace aérien et votre population civile. Je sais à quel point les hivers ont été rudes et à quel point il est nécessaire d'être prêt cette année lorsque les nuits commenceront à s'allonger.
Anna Navarro, donc est-ce qu'on a, pour vous, est-ce qu'on a une Europe soudée aujourd'hui?
À voir.
Autour de l'Ukraine, concernant, face à Poutine.
À voir. Il semblerait que oui, l'Europe, c'est 27 pays et ils n'ont pas tous les mêmes objectifs et les mêmes priorités et les mêmes analyses de la situation, ni les mêmes intérêts. Concernant l'Angleterre, qui n'est pas dans l'Europe, oublions-le, n'est pas en Union européenne, eux-mêmes disaient qu'ils n'étaient pas en Europe, dans le continent avant. Là, c'est peut-être plus particulier parce que effectivement, dans les milieux militaires, dans les milieux des gens qui peuvent approcher un peu les milieux de renseignement, il y a une idée qui s'établit selon laquelle les Anglais sont l'Angleterre, MI6 notamment, les services militaires anglais sont dans l'assistance très soutenue à l'Ukraine dans les attaques qu'elle porte tous les jours contre les raffineries et les intérêts économiques russes. Et vous savez qu'il y a déjà, que ça porte ses fruits en termes de guerre, parce que ça a déjà des problèmes d'approvisionnement en Russie, d'essence, de diesel, etc. Et donc ça commence à porter un énorme problème vis-à-vis de Poutine et de ceux qui sont dans sa ligne, qui est, par rapport aux extrémistes, aux faucons russes, qui est considéré comme modéré, parce que ces faucons disent « bon, il est temps d'en finir maintenant ». Et on pourrait analyser cette poussée, ces menaces contre l'Angleterre comme un avertissement, un tir de semonce pour dire on lève le pied et on laisse peut-être l'Ukraine y aller peut-être plus seule, plutôt seule. Je ne crois pas que les Anglais vont lever le pied, qu'ils vont continuer à être indéfectibles comme il a annoncé aux côtés de Kiev. Mais il y a effectivement cette menace perçue à Moscou de l'Angleterre comme étant le plus proche assistant, on va dire, actuellement de l'Ukraine.
Oui, Violetta Moscalo.
Je pense que autant la Grande-Bretagne comme petite Anne et la France aussi sont considérés comme les leaders en fait, hein, et donc les pires ennemis entre guillemets par le Kremlin. Et notamment avec les dernières annonces qu'on a vues le 24 août, le jour de la restauration de la fête de l'indépendance de l'Ukraine en fait, hein, donc la fête nationale, quand les Anglais et les Français ont annoncé la possibilité de transfert des licences technologiques en fait pour la fabrication des missiles balistiques en fait pour des frappes en profondeur, le Scalp et le Storm Shadow, ça c'est quelque chose qui déplaît fortement en fait aux Russes effectivement. Donc
où en est aujourd'hui la base industrielle et technologique de défense ukrainienne, est-ce que ça tient la cadence, hein? Je sais que ça a été un modèle de modernisation de guerre moderne que tous les états-majors du monde entier regardent, hein? Parce que là on a une expérience à temps réel avec une société qui s'est mobilisé avec une agilité folle pour transformer toutes ces usines. Et puis, ça a commencé où on allait acheter des petits drones chez Carrefour. Et puis après, on en fait des objets low-cost redoutables, etc. Aujourd'hui, est-ce que l'industrie ukrainienne tient la cadence?
En fait, sur différents axes, effectivement, on a été bluffés par la capacité et l'innovation technologique en fait, de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne, notamment sur tout ce qui tourne autour des drones intercepteurs en fait, et tout ce qui va avec. Par contre, le talon d'Achille en fait, hein, de ces derniers mois et la grande faiblesse, entre guillemets, c'était le manque de missiles intercepteurs en fait, par rapport aux attaques balistiques, et qui est lié à une interférence très forte avec la guerre en Iran où les Américains ont dépensé beaucoup de stocks, en fait, hein, donc des missiles intercepteurs, notamment les Patriots, dont l'Ukraine a énormément besoin, en fait, hein, parce que sinon, on a vu tout le mois de juillet quasiment impossible d'arrêter les missiles balistiques qui détruisaient toute infrastructure civile sans filtrage, en fait, hein. Et donc, là-dessus, effectivement, une énorme inquiétude du président Zelensky, de l'armée ukrainienne et de la société ukrainienne par rapport à l'hiver qui approche, pour dire les Russes, ils vont massacrer les infrastructures, pas seulement énergétiques, mais aussi tout ce qui est canalisation, eau et tout ça. Et donc, quelque part, les millions d'Ukrainiens sont en train de se demander.
Si on montre la moindre faille, Poutine n'hésitera pas.
Tout à fait. Comment ils vont survivre l'hiver, en fait. Et ça, cette décision franco-britannique, ça va dans le sens de ce qui est bon et positif pour l'Ukraine.
Alberto Toscano. Donc,
je crois que le moment est venu vraiment de s'interroger sur cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine. Le front, en termes militaires, est figé. Et on assiste à une guerre imprévisible, extrêmement dangereuse. Et je crois que cette surenchère d'augmentation d'armement pour frapper la population, les villes, les usines, bien sûr, les usines de supermarchés, de deux côtés, est une surenchère extrêmement imprévisible et dangereuse. Et je crois que le moment est venu, devant un front qui est figé, de trouver une façon pour arrêter cette escalade de missiles, d'antimissiles et de missiles, de bombardements sur une population qui est substantiellement une population.
Une toute petite remarque sur les deux côtés quand même. En fait, je veux dire, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les attaques barbares et les crimes de guerre parce que la population civile elle est visée de façon délibérée par l'armée russe et avec les attaques ukrainiennes où on cible en priorité les infrastructures pétrolières, les entrepôts logistiques, mais on essaie d'éviter de frapper les hôpitaux ou les écoles ou les supermarchés un vendredi après-midi ou les familles.
Il y a l'agresseur et l'agressé. Hein.
Et donc, c'est pas du tout, ce n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité.
Anna, vous vouliez réagir. Anna Navarro.
Non, je réfléchissais à autre chose plus vaste et par rapport encore aux élections françaises ou d'autres élections, c'est que nous sommes dans une période d'instabilité, comme a dit Alberto, mais c'est une période historique. On est dans un changement d'ère historique, celle qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, arrive à sa fin dans ses structures financières, dans l'hégémonie du dollar, dans l'hégémonie des États-Unis sur la politique internationale, dans l'hégémonie de l'Occident tout court, Europe, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, sur le reste du monde. On arrive à sa fin. C'est très curieux, l'autre jour j'écoutais un spécialiste, un historien pakistanais qui parlait en anglais, il disait, par exemple, au Moyen-Orient, on arrive à ce qu'on appelle maintenant l'Asie occidentale, pour en terminer avec cette désignation colonialiste, eh bien, il disait on arrive à la fin de la période Vasco de Gama, c'est-à-dire le découvreur portugais qui a quand même amené la route vers les Indes maritimes et qui a militarisé les échanges commerciaux à l'époque. Il dit on arrive à une autre période. Et quand vous écoutez cette partie du monde, elle se dit on a l'avenir devant nous et il est à nous, il n'est plus aux autres. Et c'est cette instabilité, on va la vivre et on va payer beaucoup de choses qu'on a fait dans le passé.
Ce qui me fait influent, singapourien qui disait l'année dernière de l'Europe devant les principaux investisseurs indiens, allez-y, allez l'Europe. Il nous reste juste quelques minutes.
Va construire un parc de
Dragon Ball, oui. il nous reste juste quelques minutes. J'aimerais aborder avec vous quand même, ce week-end, il y a un référendum qui se passe en Islande. Les Islandais qui doivent voter pour savoir s'il faut reprendre des discussions en vue d'une processus d'adhésion à l'Union européenne. Bon, mais j'allais dire, le sujet, il est presque... derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On est sur cette île, qui est une île charnière entre l'Arctique et l'Atlantique Nord, qui a des visées de Donald Trump. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais vous faire écouter, pour comprendre un peu ce qui se passe, en janvier dernier, Donald Trump, il était au forum de Davos et il parlait du Groenland. Sauf que là, sa langue a fourché, il a fait un énorme lapsus, il ne parlait que d'Islande à la place du Groenland. Écoutez Donald Trump.
Sur l'Islande, nos alliés ne nous soutiennent pas. Hier, la bourse américaine a même commencé à baisser à cause de l'Islande, donc l'Islande nous a déjà coûté beaucoup d'argent.
Bon, Adeline Persep, en fait, il voulait parler du Groenland, mais il met le Groenland et l'Islande dans le même panier. Mais quelque part derrière, ce que nous dit ce lapsus, c'est que là, maintenant, the place to be aussi, vous nous parliez de l'Asie, mais il y a aussi l'Arctique.
Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que la Chine l'a compris depuis fort longtemps, puisque l'Islande a signé un accord bilatéral avec la Chine depuis déjà 2013, pour un certain nombre de choses. Donc évidemment, la Chine avait anticipé, si vous voulez, la fonte des glaces et le fait que ce serait vraiment sur une route stratégique. Donc je pense que Donald Trump a ça en tête également. Et évidemment, il faut que l'Union européenne s'intéresse aussi à cette île. En revanche, un certain nombre de gens, et notamment la droite islandaise, a quand même demandé à l'Union européenne de fermer sa bouche à tous les dirigeants de l'Union européenne et Kaya Kallas probablement, de fermer leur bouche pour ne pas interférer dans le vote, justement, parce que vous le savez, les Islandais sont quand même des gens qui tiennent à leur souveraineté et qui ont un
mauvais souvenir. C'était aussi, il y a un traumatisme quand même de l'ancienne colonie danoise qui était...
Oui, mais ils ont aussi, très récemment, le mauvais souvenir de la pêche. Hein. C'est pour ça qu'ils sont partis des négociations avec l'Union européenne, parce qu'on a... Et pour eux, la pêche, c'était quand même, je crois, la moitié de leurs exportations.
Il y a eu une guerre de la morue qui a été très féroce.
C'est ce qu'il y avait d'ailleurs en 2011, la guerre des dettes souveraines. Les banques islandaises qui avaient promis 14% de rendement d'intérêt...
Ils se sont retrouvés au tapis.
Ah oui, qui ont été... Et on a voulu obliger l'Islande à nationaliser ces banques pour porter la dette privée des banques sur la population. Et ils ont dit non. Et ils ont eu des référendums là-dessus. Deux. Et ils ont mis les banquiers en prison. Et pour le paiement, au départ, enfin après ça a été réglé de plusieurs façons, on peut en parler, mais au départ, les banquiers anglais allaient là-bas demander le paiement de leurs actifs et ils répondaient, bah, si vous voulez, on peut vous donner du poisson. Donc, ça a une colonne vertébrale, un petit pays, parfois.
Violetta Moscalo.
Juste une petite réflexion, c'est qu'il me semble que l'Islande apporterait un peu de PIB supplémentaire à l'Union européenne, mais il apporterait énormément de géographie, en fait. Hein. Et donc, par rapport à l'emplacement ou la position dans le corridor Groenland-Islande-Royaume-Uni, c'était un passage central, à un moment donné, dans la surveillance des sous-marins soviétiques pendant la guerre froide, en fait. Hein. Et donc, il redevient crucial avec l'Arctique, la flotte russe du Nord et les câbles sous-marins, la sécurisation, en fait, donc de les zones transatlantiques. L'importance, elle est très, très stratégique.
Vous avez raison de le rappeler, hein, Alberto Toscano, c'est quand même l'Islande, on est quand même sur le passage de toute la flotte russe du Nord, on part du port de Mourmansk, Baltique, si on veut rejoindre l'Atlantique Nord, on est obligé de franchir cette ligne. Donc là, on est vraiment sur une ligne d'attaque côté russe qui, pour sortir de la Baltique et une ligne de défense côté OTAN. Oui. Et là, vous avez l'Islande en plein milieu.
L'Islande, il y a... Le monde doit faire l'habitude à ce nouveau chemin, ces voies de communication arctiques qu'on connaissait, on fantasmait sur ces passages. Aujourd'hui, suite au changement climatique, c'est une réalité et on peut passer à la fois pour des flottes militaires, bien sûr sous-marines, ça existait déjà, mais aussi pour des flottes commerciales. Et le problème, comme Aline disait tout à l'heure, est aussi, et peut-être surtout, un problème de nouvelles voies de communication commerciale, économique. Et il y a un nouveau monde qui se dessine de l'Arctique. Alors, on peut justement ironiser sur le langage de Donald Trump, assez bizarre et souvent arrogant, mais il y a la réalité que des pays comme... l'Islande et des terres comme la Groenland ont aujourd'hui une importance stratégique énormément supérieure à celle que ces pays avaient avant. Je termine par une considération. Merci Islande, tu nous apprends que on peut faire des référendums sur plein de sujets. Et là, c'est une démocratie islandaise qui marche. L'Islande nous donne une leçon de démocratie. Voilà. Sans dramatiser, sans que ça devienne...
Après, bon, c'est peut-être plus facile de s'entendre à 400 000 qu'à 70 millions. Mais bon,
on peut essayer.
Ouais. Vous avez raison. Bon, en tout cas, et quand vous parlez de l'importance stratégique commerciale, il faut rappeler que... Effectivement, avec la fonte des glaces pour relier l'Asie à l'Europe, eh ben vous mettez deux fois moins de temps par la route arctique que par le canal de Suez. Hein. Donc c'est hyper important. On va terminer ces experts sans frontières par vos cartes blanches, des articles ou des médias ou des événements qui viennent de vos pays d'origine respectifs, qui nous en disent un peu plus long sur ces pays dont vous venez. Ana Navarro, vous, c'est un article du média portugais Jornal Económico sur la leçon de finances publiques des pays du sud de l'Europe.
Oui, en fait, c'est un article, c'est pas un rapport de l'agence notation Fitch qui l'a publié cette semaine en disant que le Portugal, la Grèce et Chypre pouvaient donner des leçons à la France, à la Belgique, à l'Autriche, à la Finlande, j'en oublie un, en matière de santé budgétaire et d'utilisation des fonds publics. Mais concernant le Portugal, Fitch prévient aussi, alors le fameux miracle portugais dont on a parlé, j'ai parlé tout à l'heure, et puis ce redressement spectaculaire du pays, il dit quand même que le consensus social qui a permis ce redressement, on parlait tout à l'heure pour la France de sacrifice et d'être prêt au pas à vivre, eh bien ces consensus sociaux commencent à s'effriter et que c'est là la véritable menace pour la suite de l'économie portugaise.
Eh bien, vous savez quoi, Ana, cet article, on va le faire parvenir à nos 7 candidats déclarés pour l'instant la présidence de la République, à retrouver sur le Jornal Economico, média portugais. Alberto Toscano, vous, c'est un article de la Repubblica que vous avez choisi sur l'idée des primaires, que certains jugent suicidaires.
Il y a des élections déterminantes, à la fois en France et en Italie, et dans d'autres pays d'ailleurs. Et en Italie, notamment la gauche italienne, s'interroge sur les primaires. Alors, la gauche veut organiser des primaires, mais l'organisation des primaires est compliquée. Exemple, est-ce que seulement les militants, les inscrits au parti votent ou une vaste primaire avec 3 millions de personnes qui votent et avec la possibilité d'influence. Mais surtout, il y a cet article où un intellectuel italien critique l'idée même des primaires en disant que les primaires dans le passé ont été suicidaires pour les partis qui les ont organisés. C'est arrivé en France, par exemple, ouais, pour les Républicains. Et c'est arrivé aussi pour des formations politiques et des coalitions de gauche. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou non d'organiser des primaires? Point d'interrogation qui vaut pour l'Italie et vaut aussi pour la France.
À retrouver dans La Repubblica. Et on termine avec vous, Violetta. Un article de The New Voice of Ukraine sur la diaspora ukrainienne qui ne compte pas rentrer au pays. Si j'ai bien...
En fait, effectivement, il y a une problématique démographique en Ukraine parce que la part des Ukrainiens qui ont été amenés à quitter le pays à cause de l'invasion depuis 2022 et qui envisagent aujourd'hui de revenir, en fait, est passée en un an de 68% à 53%, tout simplement. Et en fait, dans le contexte de la diaspora ukrainienne qui est beaucoup plus grande, on parle aujourd'hui... L'État ukrainien considère qu'il y a entre 8 à 10 millions de personnes d'origine ukrainienne qui se retrouvent à l'étranger. La question démographique inquiète l'Ukraine, l'État ukrainien, mais par contre, la question des élections aussi, parce qu'on a beaucoup parlé des élections, qui un jour devront être organisées aussi en Ukraine, inquiète aussi les Ukrainiens, y compris les Ukrainiens de l'étranger et la diaspora ukrainienne. Parce qu'il n'y a pas seulement la question de comment le vote sera organisé, ça c'est une vraie problématique. Par contre, deuxième aspect, en fait, deuxième partie de la face de la médaille, c'est la représentation de ces Ukrainiens de l'étranger à la RADA. Et là, le benchmark, en fait, d'un certain nombre de pays européens, y compris la France, qui a des députés qui représentent les Français habitant à l'étranger, sera très utile, en fait, donc, pour préparer la nouvelle législation sur les élections en Ukraine.
Article très intéressant à retrouver dans The New Voice of Ukraine. 8 à 10 millions, cette diaspora ukrainienne. C'est énorme. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos regards, vos éclairages précieux, très importants pour nous faire sortir de notre bulle franco-française. Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Alberto Toscano, politologue et essayiste italien, Violetta Moscalou, présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine, et Adine Persep, correspondante de la RTBF à Paris. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières.
Les Experts sans frontières sur BFM Business.